L'alphabet numérique, comme chaque dimanche dans Soft Power, notre séquence qui décrypte les internets, qui décrypte les mots aussi du web, ses expressions, ses tendances ou ses évolutions. Et ce soir, nous évoquons Instagram comme, on pourrait dire, une sorte de nouveau réseau social culturel. Et c'est l'élément qu'on va développer ce soir avec nos chroniqueurs Marjorie Paillon de France 24, Pierre Aski de Rue 89, Jean-Baptiste Souffron de Technicart et Pierre Siankowski des Inrecuptibles. Instagram, c'est une application de partage d'images et de vidéos très courtes, au demeurant, qui sont postées actuellement sur Internet à raison de 80 millions de photos chaque jour. Alors Instagram, qui appartient à Facebook, est un réseau social de partage de photos. Ces dernières années, cet album photo géant qui s'utilise principalement via une application sur smartphone est donc devenu une sorte de site des artistes. On connaissait ses succès dans la food porn, hein, là on prend en photo tout simplement les plats dans les restaurants, la mode, encore la promotion des marques de montres ou de voitures. Désormais, la classe créative semble avoir adopté également Instagram. Les hashtags culturels y sont particulièrement populaires. Quant aux poètes, ils ont adopté, Marjorie Paillon, Instagram comme leur réseau de référence avec ce qu'on appelle les Insta poètes.
Oui, en effet. Alors, si on revient aux origines d'Instagram, on l'a dit, hein, c'est le réseau social qui met l'image à l'honneur. C'est une application de filtre au départ, en fait, hein, et de partage de photos. Aujourd'hui, revendique 400 millions d'utilisateurs actifs dans le monde, mais surtout 75% hors de son pays d'origine, les États-Unis. C'est né en 2010 de l'esprit et surtout des mains de Kevin Systrom, devenu application de l'année pour Apple dès 2011, racheté en effet par Facebook en 2012 pour 1 milliard de dollars. On imagine donc déjà que Mark Zuckerberg avait une grande idée de la façon dont il souhaitait monétiser l'image et la vidéo grâce à Instagram. Alors c'est vrai que c'est là aussi où naissent en effet toutes les tendances, nouvelles tendances de la sémantique de l'image. On l'a dit, le food porn, les insta-poètes, les indétrônables selfies en tout genre de stars ou d'anonymes. Mais si surtout, finalement, la façon de propager une nouvelle pratique numérique, Instagram, ça s'appelle la phonéographie, la photographie avec un téléphone mobile. Et puis c'est surtout, pour revenir au sujet du jour, le réseau préféré des musées. Il y a des top 30 qui circulent, des institutions culturelles les plus actives sur Instagram. On y retrouve régulièrement en première, en top 10 ou même en tête de classement, le MoMA de New York, sa déclinaison de San Francisco, même le musée du Louvre. Ce qu'on va juger, c'est à la fois le nombre de followers, le nombre d'œuvres postées sur les 8 derniers jours. En réalité, l'avantage pour les musées, c'est surtout d'étudier le comportement sur Instagram de leurs visiteurs, comprendre où les photos ont été géolocalisées à partir de leurs emplacements, comprendre le comportement des visiteurs et comprendre comment justement ils sont engagés par une œuvre, et puis surtout mesurer le succès de certaines expositions. Alors, est-ce que c'est un mariage de raison ou de passion, les musées et Instagram? On va certainement en parler tout à l'heure. En tout cas, c'est un mariage qui peut rapporter gros et qui peut surtout essayer d'expliquer de nouvelles raisons d'engagement par rapport aux œuvres. Et puis l'autre question, c'est de savoir si certains comptes d'artistes sur Instagram sont des œuvres en elles-mêmes. C'est ce dont on débat.
Justement,
réaction de Pierre Siankowski.
Non, mais faire de sa vie une œuvre d'art, c'est une ambition qui a été portée par beaucoup d'artistes. Aujourd'hui, c'est à disposition. Quand on voit, par exemple,
tout le monde est un artiste.
Tout le monde est un artiste, mais il y a des artistes dont finalement.
Pas seulement les journalistes des Inrecuptibles et ceux dont ils parlent. C'est bien le drame.
Ce qui est amusant, c'est que il y a des artistes, des musiciens. C'est un sujet que je connais un peu mieux que le reste, mais qui font en gros de leur compte Instagram une espèce de deuxième endroit de leur œuvre, c'est-à-dire qu'il y a la musique, il y a les clips vidéo, on connaissait déjà tout ça, c'était des façons de s'exprimer qui sont un peu classiques depuis le clip est là depuis les années 80. Instagram a ramené autre chose, c'est-à-dire qu'on rentre dans la vie de l'artiste, il y a une mise en scène de l'artiste lui-même. Je pense à quelqu'un comme Rihanna par exemple, qui a un des Instagrams les plus suivis au monde, si
notamment
ce n'est
par Pieraski, qui adore
notamment
Rihanna,
par Pieraski,
et qui s'était fait même désactiver parce qu'elle avait posté une couverture, me semble-t-il, de lui
exactement, où il était nu sur cette couverture. Mais voilà, sur son Instagram à Rihanna, on voit ce qu'elle veut dire d'elle-même, c'est-à-dire qu'on voit que c'est une fille qui poste des photos de ses copines, qui poste des photos de l'enfant, de ses amis, voilà, le backstage, et ça permet d'ouvrir quelque chose et de dire autre chose sur l'artiste. Et c'est ça qui est assez intéressant quand on considère cette idée de faire de sa vie une œuvre d'art.
Pour en revenir aux questions de l'art, le MoMA, The Museum of Modern Art, c'est comme ça qu'il apparaît sur Instagram, à 1,3 million d'abonnés sur Instagram. Quant au Met, également plus d'un million. D'autres musées sont beaucoup moins présents, par exemple The Art Institute of Chicago ou le Museum of Fine Art de Boston, qui sont pourtant de grands musées, peine à dépasser les 80 ou 90 000 followers. Une réaction sur le rôle d'Instagram, Pierre Aski.
Ce qui est très étrange, c'est que quand Instagram a explosé, tout le monde a effectivement analysé cette manière de se mettre en scène, de jouer à l'artiste, effectivement, quel que soit son statut. Et puis est arrivé Snapchat, qui est l'antithèse d'Instagram, puisque les photos disparaissent et que on s'échange des dizaines, des centaines de photos par jour, ce que font les ados aujourd'hui, qui sont des instants qui n'ont aucune vocation à rester. Et Snapchat est venu bousculer le concept même d'Instagram. Les deux coexistent aujourd'hui totalement dans deux sphères différentes.
Et d'ailleurs, les jeunes savent souvent et choisissent tel réseau.
Exactement,
il y a
des photos qui sont pour Instagram et d'autres qui sont pour Snapchat. Et je trouve que cette vitesse à laquelle un concept vient chasser l'autre
et un réseau social
vient détrôner un autre est fabuleux.
Pierre Sienkowski.
Oui, il y a quelque chose qu'on a oublié de mentionner avec Instagram, c'est l'existence du hashtag. C'est-à-dire que le hashtag a permis, en gros, à tous les utilisateurs d'Instagram, en gros, de signifier qu'ils étaient présents dans un endroit, qu'ils avaient vu une œuvre, qu'ils avaient consulté une œuvre. Et ça permet sur Instagram de partager tout ça, de classer tout ça, de regrouper tout ça. Et pour les musées, c'est un outil de communication incroyable, c'est l'utilisation du hashtag qui permet en gros de propager en gros les images, de les partager et de leur donner une espèce de dimension supérieure.
Et s'agissant des Instapoètes, avec le hashtag donc Instapoètes, ça permet aux poètes qui publient tout simplement des courts poèmes, souvent une sorte de haïku, de les retrouver tous classés effectivement. Et c'est un des comptes qui fonctionne très très bien, parfois des millions de followers et qui ont permis à la poésie qui était un peu morte, notamment aux États-Unis dans les années 2000, de renaître d'une certaine manière sur Instagram, ce que j'imagine personne n'avait imaginé. Les fondateurs d'Instagram ne s'étaient pas dit on va créer un réseau social pour les poètes. Or, les poètes ont adopté Instagram, je dirais presque à son corps défendant. Jean-Baptiste Souffron.
Oui, moi je veux pas faire mon réactionnaire, mais quand même un peu. Et je trouve ça quand même. Enfin, on ressent quand même une forme de malaise à entendre parler d'Insta poète. Est-ce qu'on dirait des TF1 poètes, par exemple? Et c'est sûr que d'une certaine manière, ça a ouvert le réseau, ça a ouvert la communication à des gens qui jusqu'à présent avaient plus de mal à diffuser. Mais est-ce que ça va se maintenir? Est-ce que c'est quelque chose qui va rester? Aujourd'hui, un réseau social chasse l'autre. Il est fort à parier que tout ça va avoir du mal à subsister face aux contraintes qui sont portées, aux contraintes morales, aux valeurs qui sont portées par ce réseau. N'oublions pas qu'il y a actuellement, notamment en France, des gens qui se battent pour qu'on puisse afficher des tableaux célèbres, pour pouvoir... est-ce que tout le monde peut mettre ses photos ou ses vidéos ou dire n'importe quoi sur ce réseau? Non, ce n'est pas le cas. Il y a là-dedans un contrôle qui est fait. On n'est pas sur une curation, on est vraiment sur un contrôle. Et donc, on va forcément rencontrer des limites à un moment ou à un autre.
Alors, il y a d'autres réseaux qui peuvent être utilisés par les artistes, aussi par les musées. On pourrait en citer un certain nombre. On pourrait bien sûr parler de Facebook, de Twitter ou de réseaux très, très connus. Mais il y en a un qui connaît un certain succès, certes plus relatif en France, mais malgré tout déterminant, c'est Pinterest, dont la baseline affirme que le site a pour but de découvrir des idées créatives, je cite, et de les enregistrer. Alors, bien que Pinterest se positionne comme un moteur de recherche et un agrégateur personnalisé plutôt que comme un réseau social, puisqu'on épingle au fond des contenus qu'on a aimés sur le web ou sur son smartphone, sur son propre compte Pinterest, mais on le partage quand même ensuite. Et Pinterest a été adopté ces dernières années par les artistes comme un lieu où l'on peut raconter au fond une histoire, archiver des contenus, ou même être une sorte de petit Wikipédia pour les créateurs. Pour terminer peut-être sur ces autres réseaux sociaux, Pierre Sienkowski.
Pinterest, c'est la dimension du storytelling en fait, c'est-à-dire on peut grâce à Pinterest, en gros... donner à la fois son panthéon personnel, on peut à la fois le mettre dans l'ordre, dans le désordre, le bouger. Ce qui est intéressant avec Pinterest, c'est qu'en gros, voilà, il y a une démarche d'émetteur, c'est-à-dire qu'en gros, les œuvres existent un peu partout et en gros, Pinterest s'est posé comme la possibilité
de leur réorganiser
pour les fans de l'art de devenir un émetteur en fait et d'être celui qui organise en gros le curateur de sa propre passion pour l'art.
France Culture, nous sommes dans Soft Power jusqu'à 20h. Pour aller plus loin sur Instagram ou sur Pinterest, vous pouvez consulter articles, ouvrages et références sur les réseaux sociaux au mot-clé Soft Power. Vous pouvez également vous abonner au podcast L'Alphabet Numérique sur le site franceculture.fr. Et pour tous les anciens mots de l'alphabet numérique, consultez notre page alphabetnumérique.com.